Chapitre 25. Témoignage d'estime et de reconnaissance. La victoire remportée par la Société de Tempérance au grand dîner du séminaire de Québec avait été décisive. Sa marche à l'avenir ne devait plus rencontrer d'entrave. Afin de faire connaître aux générations futures les bienfaits de la Société de Tempérance, le peuple de Beauport érigea le beau monument qui se voit encore à moitié chemin entre la ville de Québec et la chute de Montmorency. Il fut béni par l'évêque de Nancy le 7 septembre 1841 au milieu d'un immense concours de peuple. Presque toutes les paroisses environnantes se rangèrent bientôt sous les saintes bannières de la tempérance. Pour exprimer devant Dieu et devant les hommes ce qu'ils éprouvaient de reconnaissance et de joie à la vue des biens incalculables de cette réforme, ils députèrent un certain nombre de citoyens pour me présenter une adresse qui me fut lue par M. Joseph Cochon, depuis fondateur du Journal de Québec, élevé plus tard à la dignité de Premier ministre du Canada et enfin gouverneur du Manitoba. Cette adresse fut bientôt suivie d'une autre présentée par les citoyens de Québec et de Beauport et lue au milieu d'une immense foule par M. Étienne Parent, secrétaire provincial. Que l'homme est un être étrange et que ses jugements sont vains. En 1842, les gens qui m'environnaient n'avaient pas de paroles assez flatteuses pour me louer d'avoir établi cette société de tempérance à l'occasion de laquelle on m'avait si unanimement accablé d'injures en 1838. Étais-je donc plus digne de respect en 1842 qu'en 1838 ? Non, certes. L'homme qui fait le bien et s'attriste parce que les hommes le condamnent est donc digne de pitié. Et, qu'il est insensé, celui qui s'élève et s'enorgueillit de ce qu'il est applaudi par les hommes. Ce changement si soudain, si complet des sentiments des évêques, des prêtres et du peuple à mon sujet, a été pour moi une leçon providentielle. Elle m'a rempli d'une indifférence complète, pour ne pas dire d'un souverain mépris, pour ce que l'on pouvait penser et dire de moi. Oui, j'aime à bénir Dieu devant le monde entier de ce que les amères critiques, les calomnies acerbes, les condamnations injustes, dont j'étais abreuvé au début de mon œuvre de tempérance, suivies sitôt des louanges exagérées, et si peu mérité dont ces mêmes hommes m'accablaient, m'ont parfaitement guéri de cette vanité si naturelle, mais si sotte, à laquelle notre pauvre nature déchue succombe si aisément. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », a dit le maître. Plus un homme rentre sérieusement en lui-même pour étudier les replis de son pauvre cœur, plus il voit qu'il n'y a rien là de bon, excepté ce que son Dieu y a mis. Comment donc peut-il s'enorgueillir du peu de bien qu'il possède lorsque ce bien ne lui appartient pas? Ces principes de philosophie chrétienne posés, que personne ne s'imagine que je vis d'un œil parfaitement indifférent le changement si prompt et si complet qui s'était opéré dans les idées et dans les actions de mes contemporains. Au contraire, je n'ai pas de parole pour exprimer la joie que j'en éprouvais, car j'y voyais la main de mon Dieu. C'est ici le moment de raconter un fait trop caractéristique et trop honorable pour les habitants de Beauport pour que je puisse le passer sous silence. Ma première pensée, après avoir vu s'établir la Société de Tempérance, fut d'établir un bon système d'éducation. Mon plan d'action, une fois approuvé par le peuple, je me mis à l'œuvre sans perdre un moment. Je commençai par faire bâtir une école en face de l'église. Elle avait été autrefois la demeure du curé. On l'avait plus tard changée en écurie, puis laissée tomber en ruine. Sur les premières fondations qui furent seules trouvées solides, on éleva l'excellente bâtisse qui s'y voit encore. Mais elle n'était qu'à moitié construite, que je me trouvais en présence d'obstacles imprévus. Mes paroissiens, qui n'avaient aucune idée de la valeur de l'éducation, murmuraient contre moi, craignant que je ne leur demande de l'argent pour finir la bâtisse. Je possédais un superbe cheval que je vendis et pus ainsi terminer la construction de cette première école qui fut bientôt remplie de joyeux écoliers. Les habitants de Beauport, humiliés de me voir aller à pied à Québec ou, pour faire mes visites, se dirent l'un à l'autre. N'est-ce pas honteux pour nous d'avoir été si peu généreux à l'égard de nos propres enfants et d'avoir forcé notre curé à sacrifier son cheval afin de nous bâtir cette école? Réparons notre faute. Quelques semaines plus tard, je revenais d'une paroisse assez éloignée où j'avais établi la Société de Tempérance. J'étais à peine rentré dans mon presbytère que mon domestique me dit d'un air mystérieux. « Monsieur le curé, venez avec moi à l'écurie, vous verrez quelque chose de nouveau. » Quelle ne fut pas ma surprise, en entrant dans l'écurie, d'y trouver un magnifique cheval. « Il est à vous, » me dit le garçon. « vos paroissiens l'ont payé 500 $. Et, en me priant de vous le présenter de leur part, ils disaient « Après tout, c'est bien moins que nous dépensions avant la réforme de la tempérance. N'est-il pas juste que nous donnions de nos épargnes à notre bon curé pour lui montrer notre estime et l'empêcher de marcher dans la boue ?» Le seul moyen que j'avais d'exprimer ma reconnaissance à ces bonnes gens était de redoubler d'efforts pour assurer une bonne éducation à tous leurs enfants. Je leur proposais d'élever une seconde maison d'école à 2 ou 3 000 de la première et ils y consentirent. Mais bientôt, je m'aperçus que j'aurais encore plus de difficultés à finir cette seconde maison que la première. « Ne nous sommes-nous pas bien passés de toutes ces écoles jusqu'ici ?» disaient de nouveau mes paroissiens. « Nos pères n'étaient-ils pas aussi heureux que nous, sans s'assujettir à toutes ces dépenses ? Pourquoi donner tant d'argent pour une chose qui n'ajoutera pas une heure à notre vie et qui n'augmentera pas notre bonheur de la valeur d'une obole ?» Je me sentis paralysé par l'indifférence et la froideur avec lesquelles mes nouvelles demandes d'argent furent reçues. Je fus tenté de me reprocher ma hâte. J'avais non seulement donné mon dernier sou, mais je m'étais même un peu endetté et il ne me manquait pas moins de 300 $ pour terminer l'ouvrage. Dans ma paroisse habitait un homme, M. Desroussels, que j'avais toujours trouvé très généreux, pour m'aider dans tous mes efforts. J'allais donc le prier de me donner les 300 $ dont j'avais besoin pour terminer ma nouvelle maison d'école. « Mon cher curé, me dit-il, je vous donnerai cette petite somme avec plaisir, si je n'avais rencontré hier le vénérable grand vicaire de Metz. Dans une longue conversation que nous avons eue ensemble, il m'a fortement conseillé, pour votre bien et celui de la paroisse, de faire tout en mon pouvoir pour vous empêcher d'exécuter vos projets d'éducation. Auriez-vous la bonté, lui répondis-je, de me permettre de répéter à monsieur le grand vicaire de Metz ce que vous venez de me dire, les conseils qu'il vous a donnés d'entraver mes plans ? Sans doute, répondit M. Desroussels. Car ce qu'il m'a dit à ce sujet n'est pas un secret. Nous étions plusieurs citoyens de Beauport lorsqu'il nous a persuadés de nous opposer à votre projet de fournir une bonne éducation aux pauvres comme aux riches, au peuple des campagnes comme à celui des villes. C'est à cette opposition des prêtres de Québec que vous devez toutes vos difficultés. Nous aurions les moyens de vous seconder, mais nous ne pouvons agir contre l'opinion de vos supérieurs. Je lui répondis. « Ne vous rappelez-vous pas que tous les prêtres m'ont traité de la même manière lorsque j'ai établi la société de tempérance parmi vous et qu'ils vous ont conseillé de ne pas m'écouter ?»« Oui, mon père, je m'en souviens bien. Vous les avez tous convertis sur cette question-là depuis. »« Eh bien, monsieur Desroussels, espérons qu'ils se convertiront aussi, tôt ou tard, sur la question non moins importante de l'éducation. » Le lendemain matin, à 9 h, je frappai à la porte de monsieur le grand vicaire de Metz, qui me reçut avec la plus exquise politesse. Sans perdre un moment, je lui rapportai tout ce que M. Desroussels m'avait raconté de sa conversation avec lui et le priai très respectueusement de me dire si tout cela était exact. Le pauvre homme changea de couleur et ne put cacher son embarras. Il tâcha, par un long détour, de me donner des explications pour atténuer ce qu'il avait dit, mais je le forçai enfin à avouer la vérité. « Monsieur le grand vicaire, dis-je alors, je ne suis qu'un enfant auprès de vous, mais j'ai l'honneur d'être le curé de Beauport. Et je viens vous prier de me dire de quel droit vous vous mêlez des affaires de ma paroisse pour entraver le bien que je veux y faire en s'assurant les bienfaits d'une bonne éducation à tous nos enfants. J'espère, monsieur le curé, me répondit-il, que vous ne prétendez pas me mettre au nombre de ceux qui ne comprennent pas les bienfaits de l'éducation. Car je vous dirai que longtemps, avant que vous soyez né, j'avais l'honneur d'être le supérieur du séminaire de Québec, que tout le monde s'accorde à considérer comme la meilleure maison d'éducation, non seulement du Canada, mais de tout le continent américain. J'espère que j'ai le droit de penser et de dire que j'entends aussi bien que vous les bienfaits de l'éducation. Je vous répéterai cependant ce que j'ai dit à M. Desroussels, que vous commettez une fatale erreur dans vos plans exagérés d'éducation, que chaque paroisse ait son notaire, son docteur, ses marchands et quelques habitants bien instruits, voilà qui est bien. Nos paroisses du Canada ont été jusqu'à ce jour remarquables par la paix, l'harmonie, les vertus morales et sociales qui y ont régné, sous la conduite paternelle de leur curé. Mais elles deviendront bientôt ingouvernables, rebelles à leur pasteur, remplies de troubles et de divisions, si vous y introduisez votre système d'éducation générale. En outre, depuis la conquête du Canada par les protestants, les 1000 sectes du protestantisme ne cherchent que le moment favorable de répandre la Bible partout. Nous n'avons pu mettre notre bon peuple à l'abri de cette épidémie qu'en restreignant sagement le nombre de ceux qui pouvaient lire. Mais, du moment que tout le monde sera instruit, chacun tombera dans le piège qui a perdu Adam et Ève. Jeunes et vieux, hommes et femmes voudront goûter du fruit défendu, ils liront les Bibles qui leur seront offertes et ils seront bientôt perdus pour nous. Ma réponse fut trop longue pour être reproduite ici en entier. Je lui dis de venir dans nos campagnes et de voir les champs bien cultivés, labourés avec perfection, fécondés par les meilleures semences, couverts au printemps et en automne de gerbes, d'épis, dorés et de fruits précieux, puis, un peu plus loin, de regarder un autre champ mal cultivé, sans fossé, sans clôture et couvert de mauvaises herbes. Dites-moi, ajoutai-je, n'est-il pas mille fois plus agréable de vivre au milieu du premier champ que du second ? Eh bien, il y a encore plus de différence entre un peuple bien instruit et celui qui est privé d'éducation. Je sais bien que la plupart des curés partagent vos idées, monsieur le grand vicaire. Et voilà pourquoi cette belle paroisse de Beauport, malgré ses énormes ressources, n'a jamais eu le bonheur de posséder une seule école digne de ce nom. Mais ces vues ne sont pas les miennes. Quant à votre peur de la Sainte Bible, je vous confesse que nous sommes aux antipodes l'un de l'autre à ce sujet. Car je mets au nombre des plus grandes faveurs que le bon Dieu m'ait faites d'avoir lu ce saint livre lorsque j'étais encore sur les genoux de ma mère. D'ailleurs, je ne vous le cache pas, un de mes plus ardents désirs est de mettre un évangile dans les mains de chacun des enfants de Beauport, aussitôt qu'ils seront capables de lire. À la fin de cette conversation, qui dura plus d'une heure, mais qui, quoique très vive, resta toujours dans les bornes de la politesse et des convenances, je lui dis « Monsieur le grand vicaire, je ne suis pas venu ici avec l'intention de vous amener à penser comme moi, c'eût été une impertinence de ma part. De même, il vous serait impossible de me faire partager vos vues à ce sujet. La seule faveur que je venais vous demander est de ne plus intervenir pour paralyser mes efforts dans les travaux que j'ai entrepris afin de régénérer le peuple que le ciel m'a confié. Vous n'aimeriez pas que je critique les sages améliorations que vous apportez sans cesse dans votre cours d'études classiques et que je conseille à vos élèves de se mutiler contre vous, de mépriser vos avis et de se moquer de vos conseils. Eh bien, je vous conjure d'agir envers moi de la même manière. Vous avez souvent été mon guide par vos conseils et mon père par vos bontés. Bien des fois, vous avez été mon confesseur et vous m'avez aidé à marcher dans les voies de Dieu. Je vous ai toujours regardé et respecté comme le plus vénérable de mes amis. C'est en cette qualité que je viens d'aujourd'hui vous conjurer de m'accorder la faveur que je vous ai demandée. » Ce prêtre vénérable avait bon cœur. Mes dernières paroles en touchèrent les fibres les plus sensibles. Il me pressa la main avec émotion, me promit tout ce que je lui avais demandé et nous nous séparâmes en bien meilleurs termes que je ne l'avais espéré d'abord. En traversant la cour du séminaire, j'aperçus l'archevêque Sinaï avec l'un de ses secrétaires qui, revenant d'une courte promenade, s'était arrêté pour examiner et admirer mon magnifique cheval. En l'abordant, je lui dis « Monseigneur, voilà un cheval qui devait être attelé au carrosse de l'archevêque de Québec. » « C'est justement ce que je venais de dire à mon secrétaire, » me répondit-il en souriant. « Savez-vous que vous avez là un des plus beaux chevaux que j'ai jamais vus ? Depuis combien de temps est-il entre vos mains ? Avez-vous l'intention de le garder ? Oui, monseigneur, à moins que mon évêque ne désire l'avoir, lui répliquai-je. Combien vaut-il ? Me demanda l'évêque. Il a coûté 500 $ à ceux qui me l'ont donné, lui répondis-je. 500 piastres ? C'est bien trop cher. Avec une pareille somme, on peut avoir 5 bons chevaux. Votre grandeur veut badiner. Si j'étais aussi riche que je suis pauvre aujourd'hui, 1000 piastres ne monteraient pas ce superbe animal, à moins que mon évêque ne le désirât. Vous êtes bien aimable, monsieur le curé. Puis, se tournant vers son secrétaire, il lui dit « Ayez la bonté d'aller faire un chèque de 200 $ que je veux donner à M. Chiniki pour ce beau cheval. » Aussitôt que le secrétaire fut parti, l'archevêque s'approchant de moi, tira 3 billets de 100 $ de son portefeuille, me les mit dans la main en disant « Ne faites connaître ceci à personne, pas même à mon secrétaire. Je ne veux pas que personne sache ce que ce cheval m'a coûté, car je n'aime pas qu'on parle de ce que je fais. » Je quittais l'évêque au comble de la joie. Avec ces 300 $, j'allais finir ma maison d'école et les 200 autres $ serviraient à en commencer une troisième. 2 semaines plus tard, je sortais de mon lit comme les rayons d'un beau soleil de printemps entraient dans ma chambre. Mon serviteur vint me dire « Monsieur le curé, il y a 20 hommes à la porte, tous à cheval, et ils vous prient de venir à eux car ils veulent vous parler. » « 20 hommes à cheval à la porte qui veulent me parler ?» lui répondis-je. « Je pense que tu rêves. » Ma toilette fut bientôt faite et quelques minutes plus tard, j'étais effectivement en présence de 20 cavaliers, principaux habitants de ma paroisse, rangés en demi-cercle pour me recevoir. « Que me voulez-vous, mes amis ?» leur dis-je. L'un d'eux, qui avait étudié quelques années au séminaire de Québec, me dit « Monsieur le curé, nous venons au nom des habitants de Beauport vous demander pardon de vous avoir contristé en ne vous aidant pas, comme nous l'aurions dû dans les efforts surhumains que vous faites pour donner une bonne éducation à nos enfants. Cette indifférence est due à la profonde ignorance qui règne au milieu de nous. Comme la plupart des habitants de Beauport ne sont jamais entrés dans une école, qu'ils ne savent pas même signer leur nom, ils ne connaissent pas le prix de l'éducation et ils n'ont pu, jusqu'à ces derniers jours, apprécier ce que vous faisiez pour eux. Mais les sacrifices héroïques que vous avez faits dernièrement nous ont ouvert les yeux. La vente du cheval que nous vous avions donné est tombée sur nous comme un coup de foudre. Mais vous savez, monsieur le curé, que la foudre n'éclate pas sans qu'il apparaisse un éclair. Cet éclair fait la lumière, dissipe les ténèbres et souvent montre la route aux voyageurs égarés au milieu de la nuit la plus noire. L'éclair que nous avons vu nous a fait honte de la conduite que nous avons eue à votre égard. Vous nous avez retirés, presque malgré nous-mêmes, de la profonde et honteuse léthargie dans laquelle nous croupissions à Beauport depuis plus d'un siècle. Nous venons vous en remercier. Nous venons en même temps vous apporter non seulement nos cœurs, mais nos bourses. Comptez sur nous à l'avenir, vous nous trouverez prêts à seconder vos efforts dans le bien que vous voulez nous faire en assurant à nos enfants les bienfaits d'une bonne éducation. Mais nous ne sommes pas venus ici de si grand matin uniquement pour dire des paroles que le vent emporte et dont il ne reste bientôt rien. Nous sommes ici pour faire l'acte de justice et de réparation qui vous est dû. Notre première pensée, lorsque nous avons appris que vous vous étiez défait de votre second cheval pour finir notre école, a été de vous en donner un autre encore plus beau, s'il était possible. Si nous ne l'avons pas fait, c'est que nous avons été empêchés par l'idée que vous alliez encore vous en défaire à la première occasion où les besoins des pauvres ou les constructions de nos écoles parleraient trop fort à votre cœur. Cependant, nous ne pouvons souffrir que notre curé se traîne dans la boue lorsqu'il vient nous voir. Voici donc ce que nous avons décidé comme le parti le plus sage. Nous allons vous donner un nouveau cheval, mais vous ne pourrez pas le vendre. Nous sommes venus avec les 20 meilleurs chevaux de Beauport. Veuillez choisir celui qui vous plaira le plus. Gardez-le aussi longtemps que vous serez parmi nous, ce qui, nous l'espérons, sera jusqu'à la fin de vos jours. Ensuite, il retournera à son maître. Soyez bien assuré, monsieur le curé, que celui de nous qui aura le plaisir et l'honneur de voir son cheval entre vos mains sera le plus heureux et le plus fier de vos paroissiens. Mon émotion m'empêcha de répondre à ce discours. Ce ne fut qu'après de longs efforts que je pus parler. Chers amis, ceci est trop pour votre pauvre pasteur. Je me sens accablé sous le poids du bonheur qui m'arrive. Je ne vous dirai pas que je vous remercie. Le mot « remercier » est trop petit, trop court et trop froid pour exprimer ce que je sens de reconnaissance et d'admiration pour ce qui se passe ici. Le grand Dieu qui a mis de si nobles sentiments dans vos âmes pourra seul payer la dette de reconnaissance que je vous dois pour la joie inexprimable que vous me donnez. Je sens que j'insulterais au généreux sentiment qui vous a conduit ici ce matin si je refusais ce que vous m'offrez avec tant de délicatesse et de bonté. J'accepte donc votre offre. Et, puisque vous me permettez de choisir, je vais prendre le cheval de M. Parent, votre orateur. Je le punirai de m'avoir fait tant de compliments que je n'ai jamais mérités. En prononçant ces paroles, je mettais la main sur la magnifique bête que son maître me livra avec une joie plus grande que si je lui avais donné un royaume. Mais une autre scène bien étrange et bien inattendue se déroula alors. Chacun des 19 dont j'avais refusé le cheval se mit à me supplier de prendre le sien comme le meilleur de tous. Les efforts de ces braves gens avaient quelque chose de si nouveau, de si unique, de si beau, que je riais et pleurais de joie tout à la fois en les remerciant. En vérité, y a-t-il jamais eu d'homme plus noble au monde que ces hommes-là ? Le souvenir de cette heure a souvent fait palpiter mon cœur de bonheur. J'y ai mille fois reporté ma pensée en priant Dieu de bénir le noble peuple de Beauport, de lui donner des pasteurs qui le conduisent dans les voies du Saint-Évangile et en face des chrétiens dignes de ce nom.